Je voulais juste savoir quand c'est que votre émission finit, parce que ça commence à me gonfler. Ma nana est toujours sur votre répondeur à vous écouter. Donc, bah, si vous pouviez me faire signe, c'est Frédéric Duvar.
Bonjour Daniel, j'espère qu'on est nombreux à vous appeler ce matin, parce que ça serait bien que vous nous parliez de Jean Baudrillard qui est décédé. Voilà, c'est Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
J'espère que vous avez fait des émissions sur Monsieur Baudrillard qui vient de nous quitter là, parce que je trouve que c'est un type super important. Finalement, tout ce que je pense des médias, tout ce que je croyais sentir instinctivement, confusément, en réalité m'est venu de ses travaux, hein. Donc, c'est un type vachement important. Peut-être que vous l'avez interviewé, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une émission sur lui, ou quoi, ou qu'est-ce, ou quelqu'un qui parle de lui? Mais franchement, ça m'intéresserait pour approfondir un petit peu mes connaissances sur cet homme très important. Merci.
À quoi sert un intellectuel?
Ah, ça, moi, je ne me suis jamais posé la question. En principe, il ne devrait ne servir à rien. Et dans un sens, c'est peut-être bien le résultat final, quoi. Alors, en tout cas, contrairement à tout ce, enfin, la vulgate, des choses que l'intellectuel est là pour être une conscience morale, pour être un analyste de la situation, faire entrevoir les solutions, les perspectives, etc. Moi, je le conçois plutôt à l'inverse. Et j'avais dit une fois de rendre, au fond, puisque le monde nous est donné, d'une façon inintelligible, il faut le rendre encore plus inintelligible.
Voilà, une provocation de Jean Baudrillard, c'était il y a 5 ans dans Là-bas si j'y suis, on l'avait reçu, Jean Baudrillard, avec Ignacio Ramonet, du Monde diplomatique. Et ben, on va évidemment, vous avez compris, en forme d'hommage, écouter à nouveau cet entretien qu'il nous avait accordé, stimulant, toujours stimulant, Jean Baudrillard. On décale donc ce qu'on avait promis. Aujourd'hui, on s'était promis de faire une heure autour de la sortie du film « Volem, rien foutre, al país », le film de Pierre Karl, Christophe Coelho et Stéphane Gox. Eh ben, ce sera pour demain. Le film sort aujourd'hui. Courez le voir et dites-nous ce que vous en pensez. Voici une présentation à la façon Là-bas si j'y suis.
Est-ce que le travail dans la société actuelle est une activité épanouissante? On peut se poser la question quand même. Y a un tas de gens qui pensent que non, et puis il y a des gens qui en tirent des conséquences et qui vont, collectivement ou pas, essayer d'inventer ou de reformuler des utopies.
Si tous les gens mécontents se désolidarisent et réussissent quelque part à se réapproprier leur vie, y arrivera bien un moment où il y aura effondrement. La majorité des gens sont mécontents du capitalisme et de la façon dont la société fonctionne. Le nombre de manifestations qui ont eu lieu dans les dernières années le démontre. Seulement, la difficulté en France, c'est qu'ils ne voient pas d'autres alternatives possibles. C'est-à-dire que toutes les autres alternatives possibles, et en l'occurrence, dès qu'on parle de vie communautaire en France, les gens, ils associent ça très vite à des mouvements sectaires, immédiatement.
Voilà, c'est ça. Attention, danger, travail, c'était la critique du travail, l'interrogation sur le travail. Et là, c'est des solutions. Des gens qui essayent des solutions.
C'est des recherches. Mmh. C'est des gens qui explorent des continents qui ont été un peu défrichés dans les années 70, abandonnés, et là, qui sont réinvestis.
C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis. Mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie.
Ah, j'en pleurais pas ce mot quand t'es salarié quand même.
Mais si, le salariat, c'est la quatrième domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Oui, évidemment, les salariés. Ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat.
À la limite, aller dans certains endroits, des lieux dits alternatifs, aller tourner, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est la manière ensuite dont justement on va en faire une proposition narrative et filmique. On peut aller filmer des groupes, comme Arte a pu le faire par exemple, de manière assez exotique, et oh, regardez ces oseaux et ces uluberlus, comme ils s'amusent à la campagne. Mais à partir du moment où on fait le lien avec une situation sociale, où on explique en fait comment est-ce que ces gens essayent de se retirer, par exemple, du circuit marchand et que leur proposition est une critique ouverte et éventuellement ouvre un front de résistance, là on est moins dans l'exotisme. On est moins dans l'exotisme. Ça, c'est ce qui nous a distingués de éventuellement des expériences de télévision.
Vous êtes en train de faire classiquement de l'agitation propagande qui consiste à tout mélanger avec des concepts flous en posant des questions stupides en croyant que la réaction de votre interlocuteur devra vous apporter des lumières de façon à bien montrer que le patronat épouvantable sur le sang du peuple doit être condamné. Donc c'est pour ça que je mets fin à cette interview qui est absolument stupide par quelqu'un qui pose des questions totalement orientées pour essayer d'obtenir une réponse qui est que grosso modo il faut condamner le patronat et que ceux qui se livreraient à de tels actes criminels contre le patronat pourraient avoir des justifications. Je vous dis pour ma part que ceci est dramatique.
Philippe Persson est journaliste, et lui n'a rien fait d'autre dans le film que de regarder les différentes versions que vous avez.
Mais c'est déjà un travail.
Voilà, c'est un travail de fou. Philippe Persson, donc l'œil du critique de cinéma.
Moi, je suis Pierre depuis longtemps, et bon, bah, c'est aussi une, je dirais, c'est une démarche un peu droite, sans concession, honnête. Et voilà quoi.
Veut dire que les autres ne sont pas les autres réalisateurs.
Je sais pas, j'en connais pas beaucoup de réalisateurs, mais enfin ceux que je connais sont plutôt dans le cas de Pierre qu'au César et autres.
À Vilvoorde, vous connaissez les graffitis à Vilvoorde. Des gens ont écrit, attention, il risque de vous arriver ce qui est arrivé à Georges Besse en parlant à Louis Schweitzer.
J'interromps ça. C'est insupportable d'appeler au crime.
J'appelle pas, je vous
demande de quitter ce campus immédiatement.
En fait, j'ai pas été assez explicite avec Kessler, le numéro 2 du MEDEF, l'ancien numéro 2 du MEDEF. Là, j'aurais dû lui dire si des patrons des patrons multinationales font des restructurations, licencient collectivement, font des licenciements collectifs et abîment des vies à l'arrivée, tu vois, est-ce qu'il n'est pas légitime que certains abîment à leur tour la vie de patron, tu vois? C'est ça en fait le truc, la question que j'aurais dû lui poser. Bon, ça l'aurait énervé aussi, hein, encore plus même. Mais j'aurais dû être plus précis là-dessus. Je regrette de ne pas lui avoir dit, est-ce qu'il n'y a pas une violence que vous exercez, vous, patronat, qui pourrait se retourner contre vous, quoi. C'est ça, en fait, ce que j'aurais dû dire.
Voilà, demain dans la base, si j'y suis, on trouvera toute l'équipe de films, donc Volem, Rien foutre, Alpaïs, Pierre Carl, Christophe Coelho, Stéphane Gox, le monteur, Roger Iclef et quelques autres. Vous avez compris, il s'agit d'un thème, du thème de la contestation à Tina, hein. Tina, there is no alternative. Donc, depuis pas mal d'années, on essaye de donner une réplique, en disant, mais si, il y a des alternatives, il y a des formes de contestation, quand même, qui essayent, d'émerger. Et puis, il y a celle-ci qui vit dans ce film, qui effectivement reprend les alternatives des années 70, de tous ceux qui étaient partis, joyeux pour des courses lointaines en Ardèche ou ailleurs, essayer de vivre autrement, différemment, de façon alternative. Et l'an 01 de le film de Doyon et GB, dont on entendait hier à la fin de l'émission des extraits, évidemment, et la référence. Ce domaine a été mis en friche par les années, le temps, les événements, le triomphe de la révolution conservatrice néolibérale. Et aujourd'hui, on revient sur ces pistes-là dans un cadre historique et politique évidemment différent, mais avec le même entêtement de ces bricoleurs de leur vie, bricoleurs de leurs idées, bricoleurs de leur toilette, bricoleurs de leur bagnole. On voit marcher une voiture qui marche à l'eau. Oui, allô. Voilà. Et parmi ces recherches, ces tâtonnements, et c'est tous ces bougres qui nous montrent que nous disposons d'une marge de manœuvre. Nous disposons d'une marge de manœuvre. Et Tina se met le doigt dans l'œil. Donc ça, c'est demain. Aujourd'hui, en hommage à Jean Baudrillard, rediffusion de cette émission du 10 décembre 2002, où nous recevions Jean Baudrillard avec Ignacio Ramonet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
La lutte des enfants de Don Quichotte sur l'île illustre bien la question de la croissance évoquée par Hervé XV. On a construit la ville pour les riches et la spéculation, et malgré les tentes plantées depuis 2 mois, ni la préfecture, ni la mairie de Lille ne trouvent pas de place pour héberger dans la dignité des SDF. On pourrait bien sûr utiliser la réquisition pour montrer une autre croissance de logements, mais la mairie refuse.
Bon, ben pour avoir une idée de comment les riches détruisent la planète, il suffisait de regarder Arte à 19h ce lundi 5 pour voir, d'ailleurs sans aucun esprit critique de la part de la chaîne, comment 21 000 enfants de salauds, il n'y a pas d'autre terme, sont prêts à claquer 200 000 dollars pour aller faire un petit tour de 2 heures dans la stratosphère. Il y a un marché pour ça, et en particulier la firme Virgin qui se lance dans ce le genre de clientèle de, hautement écologique et un sacré pied de nez à tous les RMistes et crève la faim du monde entier. Voilà, s'il n'y a pas de quoi boycotter Virgin, je me demande ce qui permet de faire des boycotts sur cette planète.
Oui, bonjour Monsieur Mermet, Pascal de Nantes, membre des Verts. Ben, j'écoute l'émission avec Kemp et je suis un peu abasourdi, étonné, épaté de l'opposition que vous établissez entre les écolos et le discours de M. Kemp. Moi, je suis membre des Verts, encore une fois, et je peux vous dire que son discours est totalement actuel chez les Verts. Je connais beaucoup de Verts, pour pas dire une majorité de Verts, qui sont complètement sur la ligne de Kemp et qui réfléchissent à l'avenir de la société dans cette direction du il y a même des vers décroissants je trouve ça vraiment sublunaire surréaliste d'entendre que ça c'est encore un discours décalé par rapport à l'écologie. Je sais pas sur quelle planète vous vivez.
Eh bien, on donne rendez-vous à tous les amis de là-bas, si j'y suis, au repère habituel dans le Val-de-Marne, à Joinville-le-Pont, donc à la limite de Joinville-le-Pont et de Champigny-sur-Marne, au café La Belote, donc à la Fourchette, donc à La Belote, à 19h30, un peu plus tard que d'habitude, donc cette fois-ci à 19h30, au lieu de 19h, pour en raison de manifestations qui auront lieu et auxquelles peut-être vous participerez. Donc, rendez-vous à tous les amis et on discutera de choses et d'autres, la situation politique actuelle, des élections présidentielles, enfin de tous les sujets que vous voudrez aborder. Voilà, à bientôt donc et voilà.
Elle s'approche un peu de l'homme. Elle s'approche sans faire semblant, en se penchant parce qu'elle n'ose pas encore s'approcher, bien carrément. Il a senti qu'elle s'approchait. Il la tire vers lui. Elle glisse dans l'herbe et la voilà. Tous les réseaux de son sang se sont mis à chanter, comme la résille des ruisseaux et des rivières de la terre. Elle pose sa tête sur sa poitrine. Elle entend le cœur et le craquement sourd de ce panier de côte qui porte le cœur comme un beau fruit sur des feuillages. Alors ce poids doux qu'elle a sur les épaules et qui est le bras de l'homme se fait lourd. Elle se renverse dans ce bras comme une gerbe de foin et elle se couche dans l'herbe. C'est d'abord un coup de vent aigu et un pleur de ce vent au fond du bois, le gémissement du ciel, puis une chouette. Une tourterelle sauvage commence à chanter. Voilà l'aube. Ils disent ça l'un après l'autre sans se regarder. Ils ont maintenant de grands corps calmes, des cœurs simples comme des coquelicots. Il ramasse ses braies, il tord sa chemise. Il met ses souliers, elle le regarde faire, elle sait ce qui va arriver. C'est tout simple. Viens, dit Panturle, on va à la maison. Et elle a marché derrière lui, dans le sentier. Chionneau, Regain.
Salut, c'est Daniel Mermet là-bas, si j'y suis avec Ignacio Ramonet, Jean Baudrillard.
Flight number 2, arriving from New
York. Voilà, je vais vous poser la question qu'on a posée à tout le monde à l'époque du 11 septembre. Où étiez-vous ce jour-là et à l'instant fatal?
Eh bien, moi, j'étais dans le, tout à fait dans les ailleurs, c'est-à-dire perdu dans la garrigue du sud de la France et dans une hors champ, c'est-à-dire sans. Je n'ai pas vu les images. Je les ai vues plusieurs jours après et le soir, un peu par hasard, en rentrant dans cette bergerie, j'ai ouvert la radio et j'ai eu immédiatement, de but en blanc, comme ça, l'information, les deux tours du World Trade Center se sont effondrées à 10h45. Sans rien d'autre, absolument, mais là même, avec à l'improviste total. Et à ce moment-là, j'étais précisément en train de lire le livre de Conrad, L'Agent Secret, qui est une histoire d'anarchiste terroriste du début du siècle, qui veulent faire sauter l'observatoire pour libérer le peuple du temps.
L'Observatoire de Greenwich.
L'Observatoire de Greenwich.
Alors, Ignacio Ramonet, on est deux aujourd'hui, on reçoit Jean Baudrillard, on est très content. Et j'ai demandé à Ignacio Ramonet de me donner un petit coup de main, comme journaliste, comme intervieweur, hein, faire un peu Jacques Chancel, sauf que ça va être Ignacio Ramonet, pour, autour de deux livres, on va pas prendre l'œuvre complète de Jean Baudrillard, parce que ça nous ramènerait dans un... des années de travail intellectuel. On va se limiter à deux livres que vous publiez chez Galilée, sur justement ce dont on cause, ou à partir de ce fameux 11 septembre, L'Esprit du Terrorisme. Alors c'est un tout petit livre qui est en fait un texte que vous aviez donné au journal Le Monde en novembre. Oui. Parce que la date est importante.
Le 3 le novembre, novembre, 2 ou 3
3 novembre 2001. Mmh. Et puis suivi de textes sur à partir de cet événement. Alors, on va commencer avec Ignacio Ramonet pour dire un petit peu qui est Jean Baudrillard.
Jean est un auteur qui s'est fait connaître en particulier lors du grand mouvement, disons, structuraliste dans les années 60 et 70, auteur d'un livre qui a été extrêmement important pour toute une génération, qui s'appelait « Le système des objets », qui est un livre qui a été, disons, une référence majeure dans... qui en même temps d'ailleurs paraissait un petit peu au moment où Georges Perec écrivait Les Choses, mais autant Perec le faisait d'une manière comme peut le faire un romancier, autant Jean essayait d'expliquer d'une façon je dirais structurale un petit peu ce qu'est l'univers de la consommation et l'univers des objets qui nous aliènent, qui nous entourent, etc. Ce livre, je dirais, je parle sous son contrôle, mais ce livre est un livre qui a posé d'emblée Jean Baudrillard parmi les grands auteurs, disons, de cette génération qui est une sorte d'âge d'or. Hein. Je pense à Roland Barthes, à
Debord, Michel Foucault,
etc. Des gens comme ça. Et donc, il fait partie de cette génération, donc il est un des représentants, disons, les plus actifs. Et puis, ensuite, sa production s'est diversifiée. Eh bien, aujourd'hui, en quelque sorte, il y a des livres qui ont beaucoup marqué. Au moment de la guerre du Golfe, en particulier, Jean Baudrillard avait écrit un livre qui s'appelait, dont le titre, tout le monde s'en souvient au moins, qui s'appelait « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ».
Oui, il y avait trois choses. Il n'aura pas lieu, n'a pas lieu, n'a pas eu lieu.
N'a pas eu lieu, voilà, n'aura
il y avait
pas lieu.
Trois articles. Oui,
ça va pouvoir resservir, ça, bientôt.
Oui, bien, on est dans la même conjoncture.
Réédition. Ensuite, alors, aussi, bon, il est un peu le théoricien de ce concept du simulacre, donc sur lequel il a beaucoup travaillé, le simulacre, la simulation de notre civilisation se caractérisant selon lui par la civilisation du simulacre, du paraître, du maquillage, du masque, etc., sur lequel il a beaucoup, beaucoup réfléchi. Et puis, je veux dire qu'en même temps, c'est à la fois, et c'est ça qui est toujours intéressant, un intellectuel, disons, dur, avec un certain nombre de productions de concepts et de travaux d'intellectuels, travaux universitaires, et en même temps, qui intervient sur l'actualité, sur la guerre du Golfe en particulier, on pourrait en citer d'autres, et puis ces interventions successives, hein, l'an dernier et cette année, avec L'Esprit du Terrorisme et Power Inferno, qui est le livre qui paraît maintenant.
Jean Baudrillard, est-ce que vous êtes intéressé à la querelle des nouveaux réactionnaires en ce moment ?
Non, là, moi, je veux dire que je ne m'intéresse pas. Là.
Pourtant, enfin, vous êtes un intellectuel et c'est une affaire d'intellectuel.
Je ne me reconnais pas du tout dans ce marigot, je veux dire. Et là, je n'ai aucune... Non, enfin, prendre parti, il me semble assez futile. Ça me semble être une convulsion comme ça, interne, récurrente, comme ça, du milieu intellectuel et tout. Bon, moi, celui-là, à vrai dire, je l'ai un peu abandonné, ce milieu-là. Oui, je suis intellectuel puisque j'écris, puisque je suis là, même aussi, d'une certaine façon. Mais enfin, je ne me reconnais pas dans les enjeux intellectuels de type endogamique, je dirais presque. Enfin, un milieu qui se déchire, qui se renvoie l'un à l'autre. Enfin, bon, non, moi je suis un petit peu... Mais c'est pas vraiment complaisance. Hein. Je me sens hors champ dans ce sens-là, et en particulier dans cette polémique sur les réactionnaires. Moi, il y a longtemps que j'ai été traité de réactionnaire, d'hyper réactionnaire, voire parfois de fascisant et etc. À propos du complot de l'art, à propos des analyses que je faisais sur Le Pen, etc. Aussi parmi tous ces livres. En effet, événementiel, parce que ça m'intéresse d'être là. J'avais quand même fait pendant un an une chronique dans Libération, tous les 15 jours, qui a été publiée quand même à écran total. Donc, je suis dans une... Il y a une forme de situationnisme, si on veut, quoi. Une intervention comme ça. Bon, alors... Moi, c'est pas un événement, je veux dire. Ça n'a rien d'événementiel, cette polémique, quoi. Elle est conjoncturelle, elle est récurrente, elle est... Bon, et je trouve que... Bon, me semble en effet que si elle est le symptôme de quelque chose, c'est d'une désertification de l'échange intellectuel.
À quoi sert un intellectuel ?
Ah, ça, moi, je me suis jamais posé la question. En principe, il ne devrait ne servir à rien. Et dans un sens, c'est peut-être bien le résultat final, quoi. Alors, en tout cas, contrairement à tout ce enfin, la vulgate, des choses que l'intellectuel est là pour être une conscience morale, pour être un analyste de la situation, faire entrevoir les solutions, les perspectives, etc. Moi, je le conçois plutôt à l'inverse. Et j'avais dit une fois de rendre au fond, puisque le monde nous est donné d'une certaine façon inintelligible, il faut le rendre encore plus inintelligible.
Dans Power Inferno, justement, et dans le chapitre La violence du mondial, vous dites que finalement, c'est la situation d'aujourd'hui, c'est ce conflit entre l'universel et le mondial, produit en quelque sorte la fin du rôle de l'intellectuel.
J'étais là-dessus, oui. J'ai noté la même chose.
qui était lié aux Lumières et à l'universel, et puis voilà.
La citation précise, parce que c'est drôle, parce que j'ai tout de suite sauté sur cette citation, et en me disant, voilà, Ramonet est visé là-dedans, parce que vous dites dans La violence du mondial, c'est la fin de l'intellectuel lié aux Lumières et à l'universel, et du militant lié aux contradictions et à la violence historique. Ça vise des gens comme Ignacio Ramonet. Non, mais et le monde diplomatique et cette démarche intellectuelle des Lumières.
Ouais, ça dresse une sorte de constat quand même. C'est vrai que ça ne c'est pas une répudiation de l'universel, hein, ni des valeurs universelles et tout. Elles ont eu leur âge d'or, elles ont existé. Quelque part, nous vivons bien sûr là-dessus. On a un système forcément, chacun un système moral, etc. Mais d'une certaine façon, l'état des choses est allé plus vite que nous, et cet universel, eh bien, heureusement ou malheureusement, hein, là, je ne suis pas juge, il ne me semble plus être à la mesure du processus. Processus de la mondialisation, hein, qui n'est pas du tout un prolongement de l'universel. Hein, ça, on pourrait penser que finalement, la mondialisation, c'est au fond un vase d'expansion comme ça, que l'universel s'y réalise, hein, que ce serait une réalisation de l'universel. Ça déjà, c'est problématique, parce que lorsque les concepts, les idées, les idéaux sont réalisés, le danger est absolu, hein, qu'il le soit de façon plus ou moins totalitaire, et c'est un petit peu ça. Je vois la mondialisation comme un processus, si on veut, de totalisation, qui n'est pas du tout une expansion ni une universalisation, et qui est au contraire un processus réductionniste, parce que un système qui se totalise, qui se mondialise, c'est à l'exclusion de toutes les différences, de toutes les altérités, etc. La mondialisation, ça veut donc dire une réduction considérable et non pas une expansion en quelque sorte. Hein. Donc on est vraiment dans un... Comment je dirais, dans un enjeu véritablement différent. Et je doute effectivement que le système de valeurs, Hein, parce que la mondialisation, elle s'en désintéresse des valeurs, c'est plus le problème. Hein. Même du point de vue économique, la valeur n'est plus du tout à l'ordre du jour. On est dans la spéculation totale. Alors j'ai l'impression qu'un système de valeurs, quel qu'il soit aujourd'hui, il se trouve lui aussi désintégré. Alors on peut essayer effectivement la défensive, à l'aide de ce qu'il reste du système de valeurs. Mais ça ne sera jamais qu'une défensive. Alors la question de savoir qu'est-ce qui peut répondre sur un autre plan que pragmatique, que performant, qu'est-ce qui peut répondre à la mondialisation en la combattant, en y résistant, parce que je ne suis pas du côté de la mondialisation, bien entendu, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire à travers les moyens conceptuels, l'armature intellectuelle qui nous vient des Lumières. Oui, c'est ça.
Vous disiez que l'universel était une idée, mais lorsqu'elle se réalise dans le mondial, elle se suicide comme idée, en quelque sorte, hein, comme fin idéale. Et donc aujourd'hui, c'est l'humain qui est devenu la seule instance de référence.
Mais je crois que ça, c'est comme dit Aviello, c'est l'accident majeur, c'est la réalisation, c'est-à-dire en quelque sorte la performance, hein, tout ce qui était de l'ordre de la transcendance en quelque sorte, quoi, de l'idéal, de quelque chose, du rêve, de l'illusion et tout, tout est aujourd'hui performé, réalisé, hein, matérialisé comme ça dans des techniques, dans des structures, etc. Et là, c'est la fin de quelque chose, je veux dire, l'hyper-réalisation de quelque chose, c'est aussi sa fin. Et donc, on se retrouve dans un monde où, dans un monde, j'appellerais de la réalité intégrale, hein, d'une réalité intégrale, où il faudrait une réponse elle-même intégrale, enfin, je veux dire radicale cette fois. À la réalité intégrale, il faut une réponse radicale. Alors que, auparavant, on pouvait avoir affaire à une espèce de dialectique historique, à des conflits, à des rapports de force, etc. Et à ce moment-là, il suffit des lumières critiques, je veux dire, au fond d'une critique qui peut aller jusqu'à la révolte et la révolution, etc., mais qui est critique. Alors que dans la mondialisation, il n'y a plus d'espace critique.
Je voudrais qu'on reprenne, à partir de l'article que vous avez donné en novembre 2001, sur le 11 septembre, que vous avez intitulé « L'esprit du terrorisme », et là, tout d'un coup, vous êtes sidéré, on va dire, vous dites il y avait une grève des événements, on assistait à une grève des événements, et ce 11 septembre devient brusquement la mère des événements. Et vous, c'est bien vos termes.
Oui,
hein,
oui, tout à fait.
Et tout d'un coup, vous êtes presque en admiration.
Oui, mais moi,
en admiration devant cet événement. Alors évidemment, on a dit, ah ben voilà, Baudrillard, c'est bien le réac qu'on avait pressenti. Il est du côté des terroristes, et puis voilà tout. Quoi.
Voilà.
C'était bien ça.
Ben oui, ça c'est, on ne peut rien contre cette espèce de, enfin je veux dire, de rejet. Enfin, je comprends bien qu'il y ait une espèce de réaction immédiate, de type moral, physique, presque sensible à la monstruosité, entre guillemets, de l'événement. Mais moi, c'est vrai que je souffre, je crois, comme tout le monde, de la banalisation, de toute façon, de cette vie, de toute façon. Cette banalisation, cette espèce de virtualisation des choses, etc. Où, en effet, d'événements, il n'y en a plus. Il y a toutes sortes de soubresauts comme ça, de l'actualité et tout. Mais qu'est-ce qui fait événement aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait réellement événement? Dans la scène politique, ça me semble vain de chercher dans la scène politique. Dans le monde intellectuel, il semble qu'en effet, les grands enjeux aient été joués, aient été poussés à la limite et même au-delà de leur propre fin, et qu'on est devant, bon, une forme de désertification du réel, comme on disait dans le film Matrix et tout. Et donc, l'événement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je reconnais vraiment, tout à fait, que j'ai été ébloui par l'événement.
Alors, vous dites, c'est la guerre de l'Occident contre lui-même. Vous dites, c'est la quatrième guerre mondiale a commencé. C'est-à-dire que le monde refuse la mondialisation. Quand on dit mondial, hein, je dis aux auditeurs, quand on dit mondial, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la Coupe du Monde de foot. Hein. C'est la façon dont Baudrillard...
Oui, yes.
la mondialisation néolibérale, on va dire. Comme ça. Oui. C'est quand même... Alors, le monde contre la mondialisation. Voilà l'un des sens que vous donnez à cet événement.
Oui, c'est-à-dire il y a un retournement, il y a une convulsion interne, et ça, c'est un peu le même processus. C'est-à-dire, on est l'Occident, enfin, moi, je sais pas, disons, cette culture technique, etc., occidentale, est en train de remplir le monde, de le saturer, je veux dire, de combler tous les déficits, de satisfaire à toutes les demandes, virtuellement, pas pour tout le monde, mais dans l'esprit, c'est ça. Et que, à ce moment-là, n'importe quel système qui se sature, qui arrive à ce degré de totalisation, il se fracture forcément. Il se scinde forcément, parce que quelque part, le monde, alors pris au sens vraiment radical, il est duel, il y a une dualité, il y a un principe de dualité. Si vous voulez instituer au lieu de ça un principe d'unicité, de totalisation, de mondialisation, à un moment donné, il y a une rétorsion brutale qui se fait. Et là, la rétorsion, elle est passée par le terrorisme, elle passe par le terrorisme aujourd'hui. Elle peut passer par toutes sortes d'autres singularités, pas forcément violentes d'ailleurs. Bon, mais le fait est que nous avons affaire à ça. Mais que ça... Ce n'est un événement que parce qu'il y a justement cette espèce de caisse de résonance interne au système lui-même, de caisse de défaillance, je dirais plutôt, hein, interne au système lui-même. Si avec le terrorisme extérieur comme un ennemi, bon, objectivable et tout, on pourrait le combattre nettement, et ça serait un rapport de force, comme dans l'histoire traditionnelle que nous connaissons bien, quoi. Or là, non, il y a une forme d'ambivalence du système par rapport à lui-même, enfin, cette société... Elle est intégriste, bien entendu, mais en même temps, elle est en voie de désintégration. Et quelque part, cette désintégration rampante, alors, d'une certaine façon, elle prend forme, alors, violemment, évidemment, à travers des... alors là, quelque chose qui fait événement, parce que ça signifie une rupture interne du système de valeurs même de cette société.
Jean Baudrillard, vous allez plus loin, vous dites, en somme, nous en rêvions, ils l'ont fait.
Oui, parce que je pense aussi que nous souffrons... Enfin, individuellement, collectivement,
nous l'avons voulu.
Politiquement. Oui, bon, là, il faut prendre les choses quand même... oui, c'est pas une question de volonté consciente, hein, bien entendu, et sans faire du tout d'analyse en termes de refoulement, etc. Mais cette saturation de la vie, cette complétude, cette réplétion de l'existence moderne, pour nous, technique, elle est quelque part, je la crois, inacceptable. Pour les individus, pour les groupes, pour la société entière. Alors, à ce moment-là, il y a une sorte de, comment dire, de fascination par le pire, enfin, au tout moins de fascination par, oui, ben, éventuellement, l'accident, la catastrophe, par quelque chose qui viendrait quand même interrompre, enfin, c'est vrai, disons, casser cette perfection virtuelle des choses, quoi. Nous avons besoin, mais c'est toujours l'histoire de la dualité. Bon, il y a une postulation complètement duelle. Il n'est pas vrai, sans doute, que nous voulions, du plus profond de nous-mêmes, le bonheur, la perfection, l'assouvissement de tous les désirs, le principe de plaisir réalisé et tout. Ça n'est pas vrai, certainement. Alors, on peut opposer à ça une espèce de fascination étrange, perverse. Moi, je veux bien qu'on l'appelle perverse, mais elle me semble pas perverse du tout. L'idée de voir, à un moment donné, défaillir ce qui réussit trop bien.
Bien sûr, Amalé.
Oui, deux réflexions. D'une part, après tout, ici, vous ne découvrez pas le terrorisme. Il y a eu toute une théorisation du terrorisme, en particulier tout au long du 19e siècle, et ouais, plus particulièrement pendant la seconde partie. Et pendant, malheureusement, le XXe siècle, il y a eu beaucoup d'interventions terroristes. Alors, dans quelle mesure ce terrorisme-ci dont vous parlez a cet esprit... Parce que lorsque vous parlez d'esprit ou de terrorisme, vous vous adressez à celui-ci, celui qui a commis l'événement du 11 septembre. Mm-hmm. Deuxième réflexion, les auteurs du 11 septembre, dans la mesure où Al-Qaïda revendique ces attentats, ne parlent jamais de la mondialisation libérale, bien entendu. Ils sont dans un registre qui est un registre d'opposition aux États-Unis et sur une base essentiellement religieuse, donc pas économique en particulier. Hein.
Et pas évidemment politique.
Pas politique, je veux dire l'expression mondialisation, globalisation, etc. n'apparaît jamais dans les textes, dans la littérature traditionnelle d'Al-Qaïda. Mmh. Mais vous lisez cet acte-là comme un acte de rétorsion, de réponse à une violence, disons, exercée passivement par la mondialisation.
Oui, je crois qu'il faut passer au-delà un peu des discours qui affabulent l'événement en termes de, alors pour nous, en termes de terrorisme islamiste, par exemple, pour les islamistes en termes de terrorisme religieux, je veux dire, d'acting out religieux, combattre ce, Bon, si on veut analyser ça, il faut passer au-delà de l'Amérique en tant que telle, comme tout d'un coup incarnation diabolique de la puissance occidentale, et passer de l'autre côté de l'islam aussi en tant qu'incarnation de la fatwa et d'autres choses. Ces discours-là ne permettent pas de saisir ce qu'il y a d'original, oui, je dirais, de tout à fait nouveau dans ce type d'événement. Hein. Terrorisme, oui, bien sûr que c'est un autre terrorisme que celui des anarchistes.
Des anarchistes,
on parlait tout à l'heure, par exemple, hein, qui était quand même encore un moyen violent, mais avec une détermination politique, quand même, avec une analyse politique s'adressait à quelques sociétés quand même circonscrites d'une certaine façon, où le terrorisme même sacrificiel des Palestiniens aujourd'hui, en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on a encore... il y a déjà la mise en cause quand même de la mort, enfin du suicide, bien entendu, mais on est encore quand même dans un créneau déterminé en termes d'antagonisme. Bon, on voit bien là où c'est localisé. Moi, je crois qu'il faut délocaliser effectivement cette chose-là, et sinon... On va tomber toujours dans l'américanisme, anti-américanisme et tout. On n'en sort pas, absolument pas. Moi, je pense que l'analyse du terrorisme, elle passe bien au-delà de l'islam et bien au-delà de l'Amérique en tant que telle, bien entendu. C'est un antagonisme, c'est vrai, entre un processus de totalisation du monde, effectivement, et quelque chose qui résiste absolument, qui ne l'accepte pas. Alors que les islamistes ne l'acceptent pas au nom de leur morale à eux, de leur religion, c'est autre chose. Il faut bien voir que nous tous, quelque part, refusons cette espèce de totalisation de la vie. Enfin, et là, c'est un antagonisme profond qui va évidemment pas s'arrêter, même pas s'arrêter avec l'islam, avec les islamistes. Je veux dire, hein, si on envisageait tout d'un coup qu'ils soient, on puisse les réduire et les exterminer, ça ne s'arrêtera pas parce que cette adversité, hein, cette réversion interne, elle est là, elle est au cœur du système aussi. Alors, faudrait essayer de ne pas se débarrasser trop facilement de la chose en la matérialisant comme ça dans une confrontation manichéenne, alors effectivement, où le mal est des deux côtés, d'ailleurs, évidemment, et donc on n'en sort pas. D'ailleurs, on n'en sort pas, on n'est pas prêt d'en sortir, ça c'est juste, mais il faudrait quand même essayer de passer au-delà de cette... personnification des adversaires.
D'autant que vous dites que finalement l'une des caractéristiques de la mondialisation, c'est précisément de susciter des sortes de révoltes, des singularités un petit peu régressives.
Oui,
la manifestation que peut prendre la résistance contre la mondialisation est particulière.
Elle peut prendre des tas de modalités négatives, positives, réactionnaires, éventuellement. Bon, effectivement, mais quelque part, bon, ça sera toujours un sursaut d'une altérité, quelle qu'elle soit. Enfin, parce que ce système-là, par définition, s'il se totalise, il élimine, il extermine toutes les formes d'altérité. Alors, les formes d'altérité peuvent être tout à fait, négatives, nihilistes et tout, c'est vrai. Si on prend par exemple parce que le mot terreur y était dans l'équilibre de la terreur, si on voit ce qui s'est passé pendant 50 ans, l'équilibre de la terreur, la guerre froide. Bon, eh bien, il y avait un équilibre de la terreur, effectivement, puisqu'il y avait deux blocs. Il y a deux blocs, il s'est trouvé une espèce d'équilibre. À partir du moment où un des blocs disparaît, on est dans une totalisation, hein, une unification totale. Et à ce moment-là, réapparaît, alors, je dirais comme une espèce de revanche de la dualité, réapparaît alors cette fois l'adversaire absolu, insaisissable, qui est le terrorisme. Ce terrorisme-là, c'est en ça qu'il est bien différent des autres, c'est qu'il apparaît au moment où le monde s'est en effet unifié, en quelque sorte, sous le signe de quoi, hein, démocratie ou autre, enfin, peu importe, en termes de structure, il est unifié. Et à ce moment-là, eh bien, l'adversaire fantomatique, il surgit.
On revient à ce qui nous réunit aujourd'hui, donc autour des deux bouquins publiés chez Galilée, L'esprit du terrorisme et Power Inferno, c'est-à-dire des textes qui suivent le 11 septembre. Dans un des textes, vous évoquez le skyline, hein, la vision de New York, et ces deux tours qui, ayant disparu, sont présentes à tout jamais, et vous vous demandez s'il faut les remplacer, et vous vous répondez que non.
Ah, ce n'est pas moi qui me pose la question, hein. Bien sûr, oui. Elle a été posée immédiatement. Et oui, enfin, moi, c'est comme ça, un truc très subjectif comme ça, mais paradoxal, là, évidemment, en termes de provocation, je disais, bon, bien, ces deux tours, elles étaient l'incarnation parfaite, enfin, le symbole, je ne veux pas employer le mot, mais vraiment, hein, quelque part, elles incarnaient totalement ce système-là. Donc, on ne peut les reconstruire, mais ce serait d'une ironie féroce, enfin, ça n'a pas de sens. Ou alors penser que non, rien ne pourra venir à la place de ça, donc parce que elle méritait d'être détruite, enfin, du point de vue terroriste, bien entendu, elle ne mérite pas d'être reconstruite. Hein. C'est tout. Il faut faire avec ce vide, et d'une certaine façon, elles acquièrent une forme par l'absence même. Elles font encore événement, hein, non seulement. Enfin, elles ne sont plus là, mais bon, moi qui aime bien cette ville, en plus New York et tout, ce vide-là aujourd'hui fera partie d'une architecture inverse. Enfin, c'est au système d'intégrer éventuellement un accident de ce genre-là. Mais plus brièvement, je disais effectivement, on ne peut rien reconstruire qui mérite d'être détruit.
Vous dites d'ailleurs vous dites que finalement la mondialisation se veut tellement perfectionniste, finalement elle veut tellement que les choses soient qu'il n'y ait pas d'accident, justement, que même lorsque l'accident, au sens strict du terme, lorsque l'accident se produit, genre Tchernobyl, un tremblement de terre, etc., on pourrait interpréter cela comme un acte terroriste. Vous dites finalement, c'est une lecture possible. Et vous donnez un détail, j'aimerais que vous le rappeliez à nos auditeurs, ce qui s'est passé en 1923 à Tokyo.
Ah oui.
Où il y a eu un tremblement de terre qui a été... voilà, je vous laisse continuer.
Bon, dans le détail, je n'en dirai pas beaucoup plus. Oui, il y a eu un tremblement extrêmement meurtrier et tout, il a fallu compenser ça, bon, par une espèce de d'auto-da-fé, enfin de sacrifice inverse. Et donc, on a sacrifié les Coréens, des milliers de Coréens ont été... enfin, je, dans le détail, je ne peux pas vous dire. Mais enfin, il a fallu massacrer... Des Coréens, dites, voilà. En échange, dans cet échange impossible d'un accident comme celui-là, voilà. L'échange en est impossible, il faut trouver une solution catastrophique elle-même, c'est-à-dire le massacre, quoi, l'extermination. Dans ce jeu subtil de compensation entre l'accident, ce qui défaille, etc. Et comment on compense ça? Comment on rétablit l'équilibre, l'échange, là où il a été interrompu violemment, quoi? C'est en effet le problème de l'échange impossible. Or, le système, lui, enfin, quand on appelle mondialisation, qu'est-ce que c'est d'autre que un échange généralisé, hein? Et l'ultimatum, je veux dire, de l'échange
d'ailleurs,
généralisé.
Ça s'appelle le libre-échange.
Tout doit s'échanger, tout doit être absolument...
Libre-échange.
Libre-échange, mais pas seulement économique, hein, mental, tout, évidemment, donc tout doit circuler, etc. Et ce qui, à un moment donné, refuse, hein, interrompt cette circulation ininterrompue, ça c'est le mal. Hein. Ça c'est caractérisé à ce moment-là comme le mal, en termes de valeur.
Vous dites quelque part, Jean Baudrillard, que on assiste à la victoire du terrorisme. Et vous dites qu'on assiste à une récession morale, que l'idée de liberté s'efface. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste en France, mais finalement c'est un peu général, à cette lutte contre l'insécurité, là vous voyez une récession.
Ben, je vois qu'à force de sécurité, de mesures sécuritaires, enfin prises en fonction du terrorisme et tout, oui, il y a une victoire du terrorisme, dans ce sens que il réussit à faire que le système se terrorise lui-même. La sécurité absolue poussée au point où on en arrive, le contrôle planétaire et tout, ça c'est une autre terreur, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un terrorisme, au fond, intériorisé cette fois. À la limite, aujourd'hui, les terroristes, bon, ils continuent, ils font encore des choses, mais à la limite, ils n'ont plus besoin de continuer. Ben Laden n'a pas besoin d'exister ou de ne pas exister. Il n'a qu'à faire une vidéo tous les deux mois, ça suffit. Hein? C'est la stratégie de l'absence désormais, quoi. Il suffit parce que le virus, il est là. Et à ce moment-là, c'est le système lui-même qui, de toute son énergie, hein, sa contre-énergie, alimente le processus de désintégration.
Revenons à la définition que vous donniez de cet acte terroriste du 11 septembre. Vous disiez, c'est le monde qui résiste à la mondialisation. Vous dites que ce terrorisme est le verdict et la condamnation que cette société porte sur elle-même.
on est autour de la mondialisation, c'est un des thèmes du monde diplomatique, hein, c'est le grand cheval de bataille du monde diplomatique, qui livre un combat contre cette mondialisation libérale. Vous n'êtes pas les seuls, Ignacio Ramonet, mais enfin, il y a quand même. Voilà. Oui, mais comment? Parce que comment lutter contre cette mondialisation libérale si on a le malheur de ne pas s'appeler Ben Laden?
Écoutez, moi, si on prend le point de vue que cette mondialisation, c'est la destruction de toute altérité, en quelque sorte, hein, de toute singularité, je ne vois que le processus qui réinjecterait de l'altérité, pas un processus défensif de combattre le terrorisme au nom de... Bon, moi, je veux bien, au nom de la liberté, de la démocratie, des valeurs occidentales, etc., mais on voit bien que ça ne suffit pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Ignacio, mais je crois qu'il n'y a qu'une réinjection d'altérité, mais sous quelle forme? Qui va inventer quelque chose de radicalement autre? C'est-à-dire qui mettra fin à cette espèce d'intégrisme, parce qu'au fond, on est dans un système virtuellement intégriste, hein. Je dirais presque, à la limite, elle deviendrait fondamentaliste même aussi, quoi. Donc, il faut quelque part quelque chose qui désintègre. Et c'est pas, ça n'est plus aujourd'hui les puissances critiques de la, de la révolte, de la révolution, tout ça. Bon, tout ça est un petit peu aujourd'hui révolu, c'est le cas de le dire. Alors, l'altérité, d'où peut-elle venir? Eh bien, pour l'instant, elle prend cette forme violente. Hein. C'est un peu alien, quoi, évidemment. Alors, quelque chose doit venir d'ailleurs, ne peut plus venir de l'intérieur même du système. Ça pose, jusqu'à nouvel ordre, ça nous met devant une situation, moi je le reconnais, insoluble. D'ailleurs, la conclusion est celle-ci, hein, puisque c'est le verdict que porte une société sur elle-même. Hein, cette chose dont elle n'est pas responsable, hein, apparemment au contraire, bien entendu, hein, et dont secrètement, quand même, profondément, elle porte ça, la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait d'un monde perverti, déséquilibré, dont on est soi-même responsable sans le savoir et sans le vouloir? C'est une situation véritablement aujourd'hui insoluble. La conclusion était simplement que, en tout cas, la pire des solutions, c'est certainement celle qui est adoptée aujourd'hui, par l'Amérique en l'occurrence, mais ça, qui est d'exterminer le mal. Bon.
Ignacio, vous ne pouvez pas être d'accord avec la conclusion de Jean Baudrillard.
Nous avons, je trouve que c'est tout à fait intéressant ce que dit Jean, là, nous avons publié un extrait de son dernier ouvrage, Power Inferno, dans Le Monde Diplomatique. Dans cet extrait, nous avions volontairement passé en particulier une phrase qui a beaucoup chagriné certains de nos lecteurs, qui dit à peu près ceci, Jean Baudrillard se demande qui peut faire échec au système mondial, c'est-à-dire qui peut faire échec à la mondialisation, et la réponse est certainement pas, dit-il, le mouvement de l'anti-mondialisation, voilà. Qui n'a pour objectif que de freiner la dérégulation. L'impact politique peut être considérable, l'impact symbolique, dit-il, est nul. Hein? Donc, mais des phrases précédentes, il a dit que cette résistance-là est tout à fait légitime. Mais seulement, le problème, c'est peut-il faire échec? C'est un peu ce qu'il vient de dire. Mm-hmm. Et tous ceux qui sont un peu engagés dans une réflexion critique contre la mondialisation savent fort bien qu'aujourd'hui, ce mouvement, dans toute sa diversité, dans sa richesse, n'a pas réussi à élaborer ce qu'on pourrait appeler un anti-système ou un contre-système. Que tout le débat aujourd'hui, c'est comment l'aménager, comment le réguler, comment le dompter, comment le domestiquer, etc. Jean Baudrillard dit « c'est insuffisant ». En quelque sorte, je crois que beaucoup d'entre nous sommes convaincus que c'est insuffisant.
Mais on ne sait pas, on n'a pas d'opposition radicale à ce système.
Oui, personne ne peut tirer une conclusion, hein, même le mouvement d'anti-mondialisation que devient.
Bien entendu, il faut exclure le terrorisme, je veux dire.
Ce sur quoi j'insiste, c'est qu'on sous-estime en tout cas très largement la puissance, la capacité du système d'absorber la négativité. Hein. De l'absorber et d'en tirer même une espèce d'énergie potentielle, quoi. On connaît ça depuis toutes les crises qui ont traversé le capitalisme et tout. Et on sait que la critique, la crise, etc., c'est l'air qu'il respire. Enfin, c'est son espace de survie, quoi, au système même.
Alors, vous avez écrit il y a 10 ans, 11 ans maintenant, une série de textes sur la guerre qui n'a pas eu lieu, celle du Golfe. Est-ce que vous apprêtez à,
a republié ça pour les, la guerre annoncée en Irak, vers laquelle on va doucement, calmement, paisiblement.
Je pense qu'on pourrait le republier, si l'éditeur en était d'accord, parce qu'un certain nombre de choses qui ont eu lieu là sont en train de se réitérer, effectivement. Pas, cependant, pas de la même façon. Je ne sais pas si j'aurais envie d'écrire cette fois, la guerre du Golfe aura bien lieu, la guerre d'Irak, pardon, aura bien lieu. Mais c'est peut-être pas la peine, parce que elle a déjà lieu. Elle a lieu en ce moment. Toutes les stratégies, je veux dire, justement, de chantage mondial, hein, ont lieu à travers ce qui se passe en ce moment. À la limite, là non plus, les Américains n'ont peut-être pas besoin effectivement d'envahir l'Irak ou de raser le territoire irakien. C'est peut-être pas la peine. À travers cet ultimatum, hein, ils ont déjà réussi à asservir, à inféoder tout, y compris l'Europe, tout. Enfin, je veux dire, les bénéfices de la guerre, ils sont là. Hein. C'était une guerre in absentia, enfin, par l'absence. Comme Ben Laden poursuit la sienne en faisant une vidéo tous les deux mois, il n'a pas besoin d'apparaître du tout. Hein. Au contraire, il vaut mieux qu'il disparaisse même. Mmh. C'est une autre stratégie. Et à la limite, on peut dire que là, les Américains, s'ils étaient assez subtils, je veux dire, s'arrêteraient là. Heureusement ou malheureusement, ils iront certainement jusqu'au bout, hein. Mais ça c'est une opinion, je n'ai pas plus d'opinion que les autres là-dessus, la guerre aura sans doute lieu, mais à la limite, s'ils avaient une stratégie intelligente, ils tireraient les bénéfices de la non-guerre, enfin de la guerre virtuelle qu'ils sont en train de mener, et que jusque-là c'est un succès, parce que malgré quelques résistances et tout, ils ont mis au pas tous les pays, enfin tous les pouvoirs existants sont au pas, derrière eux. Ça, ils ont réussi ce coup-là, il n'y a pas de problème. Alors quel est lieu, c'est toujours le problème, quel est lieu réellement, objectivement, la guerre ? C'est pas l'essentiel. Évidemment, c'est pas du point de vue de ceux qui la subiront, hein. Mais là, on est bien forcé de passer au-delà si on veut comprendre un peu ce qui se passe, quoi.
Voilà, c'était en décembre, le 10 décembre 2002, avec Ignacio Ramonet. Nous parlions avec Jean Baudrillard. Les livres qui étaient le prétexte à cette rencontre, c'est L'esprit du terrorisme, qui est disponible sur le site du Monde, www.lemonde.fr, et également aux éditions Galilée, et Power Inferno, aux éditions Galilée, comme d'ailleurs beaucoup d'ouvrages de Jean Baudrillard, mais pas seulement, il y a aussi d'autres éditeurs. On vous signale également l'apparition du livre « Contre le communautarisme » de Julien Landfried aux éditions Armand Collin. Il y a un site très intéressant que nous visitons très souvent, contre le communautarisme. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site, donc www.communautarisme.net. Voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur ce site France Inter ou bien sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Loïc Frapsos. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et Christophe Humbert se tient près du répondeur au 01 56 40 37 37 à l'affût et à l'écoute de vos observations, informations, coups de gueule et coups de cœur. Il y avait des messages au début de cette heure suite à l'émission d'hier, autour du livre de Hervé Kempf, Comment les riches pourrissent la planète. Et nous vous remercions de tous ces messages. Demain, on évoquera Volem, rien foutre, Al País, le nouveau film de Pierre Carle et ses acolytes Christophe Coelho et Stéphane Gox, qui sort aujourd'hui sur vos écrans. Un petit peu de réclame.